Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute.
Bonjour Ophélie et bienvenue sur le podcast Les Dessous de l'IA. Le fil rouge de notre échange aujourd'hui va être de tenter de mieux comprendre les enjeux de pouvoir liés au territoire dans le domaine de l'IA. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à l'IA sous le prisme de la géopolitique ?
Eh bien, bonjour Clément, merci pour l'invitation. Moi, je m'intéresse en effet aux enjeux géopolitiques du numérique plus globalement, mais aussi du coup à l'intelligence artificielle, forcément. De mon côté, j'ai deux parcours en fait. J'ai un parcours de métier où ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille dans le numérique, dont certains projets d'ailleurs étaient liés. Au développement, à l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, pour certains. Et à côté de ça, il se trouve que j'ai, à un moment donné, décidé de reprendre des études pour m'orienter vers la recherche, et qui a donné, du coup, derrière l'écriture de plusieurs papiers et un livre, « Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant », qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, voilà. Disons que les deux casquettes me permettent d'avancer sur ces terrains de recherche avec une expérience de terrain, je dirais. Voilà, ça permet d'avoir un peu sur le terrain et tout en gardant la tête dans la recherche.
Super, merci. Peut-être avant de se lancer dans des questions plus directement, est-ce que tu pourrais partager un peu comment toi tu définis les termes qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir l'IA déjà, la géopolitique et in fine la géopolitique de l'IA.
L'intelligence artificielle, c'est un mot valise dans lequel on met beaucoup, beaucoup de technologies qui sont très différentes, que ce soit des modèles d'analyse de langue, ou traitement de langue, les NLP, ou que ce soit tout ce qui concerne en fait la reconnaissance d'image, hein, qui va de la reconnaissance d'image, je dirais, territoriale, hein, comme par exemple les analyses d'images satellites, ou de reconnaissance faciale pour tout ce qui est outils de sécurité ou de visio-surveillance. Donc en fait, l'IA se trouve dans plein de domaines différents. Il s'agit... du coup, d'un mot qui permet, qui vise très très large en fait. Hein. Et donc, moi, j'aime pas forcément très bien ce terme parce que ça laisse penser que derrière, une machine pourrait être intelligent comme l'est un être humain. C'est vraiment une idée en fait. Il y a beaucoup de termes hein, qu'on emploie, comme les hallucinations par exemple, ou la prise de décision. Une IA qui prendrait des décisions. Certains parlent même de prise de décision non consciente, alors que bon, une prise de décision, c'est un choix conscient, en fait. Donc c'est vraiment, quelque part, une idée qui est pas du tout réaliste, en fait, qui est très fantasmée. Donc je pense que c'est quand même bien de toujours rappeler ce qu'est l'IA, entre guillemets, c'est-à-dire, en fait, une grande famille de technologies fondée sur l'analyse de données et le traitement de données, et parfois même des modèles des produits, des outils qui vont combiner plusieurs technologies d'intelligence artificielle, que ce soit qu'on parle du langage à l'image ou à l'audio. En fait, tout dépend de la donnée qui est concernée derrière et de l'usage qu'on va en faire. Il y a de très grandes différences, évidemment, entre un usage bureautique d'un modèle de génération de gen AI, hein, intelligence artificielle générative, et l'utilisation de modèles pour, par exemple, des drones militaires. On n'est pas du tout sur les mêmes usages. Et pourtant, on emploie le terme d'intelligence artificielle de la même manière. Donc c'est quand même un peu problématique à mon sens. Ensuite, concernant la géopolitique, et plus particulièrement, je dirais, la géopolitique du numérique. La géopolitique, c'est donc une discipline qui associe une approche géographique, l'idée en fait qu'on va analyser les rivalités de pouvoir sur un territoire et qui prend en considération le contexte international, les relations internationales. Et donc, quand on met le numérique et l'IA dans cette équation, en fait, c'est l'utilisation du numérique, l'utilisation de l'intelligence artificielle, de ces technologies-là, dans ces rivalités de pouvoir, en fait, dans ces rapports de force. Et donc, ça implique à la fois les États, ça va impliquer les acteurs privés, ça va parfois impliquer aussi des organisations, des organismes, disons, indépendants, autonomes, voilà, voire même des individus qui vont en fait exploiter ces technologies dans un rapport de force géopolitique.
Peut-être pour continuer sur cette définition et puis le lien entre géopolitique et intelligence artificielle, en préparant l'épisode, je suis tombé sur une définition de la géopolitique par Yves Lacoste, donc un célèbre géographe et géopolitologue français, qui disait, et c'est un peu les mots que tu employais, que la géopolitique vise à comprendre les enjeux de pouvoir liés au territoire à différentes échelles, du local au mondial. Toi, tu l'appliques au numérique et à l'IA en particulier. Pour autant, on dit souvent du numérique que c'est déterritorialisé, qu'on va tout mettre dans le cloud, dans les nuages, comme si finalement on s'abstrayait de la question territoriale. Comment tu réconcilies ces deux visions entre d'un côté la géopolitique qui est complètement ancrée dans les territoires et dans les spécificités territoriales, qu'elles soient locales ou mondiales, et l'IA qui, en tout cas, en façade, est vue comme quelque chose de complètement abstrait et déterritorialisé?
Alors, en effet, c'est vrai que Yves Lacoste est très cité en France hein, concernant la géopolitique, évidemment. Il parle de différentes échelles. Par contre, il a souvent tendance plutôt à faire le focus sur l'étude justement des rivalités de pouvoir sur des territoires et les populations qui vivent sur ces territoires. Et bon, par contre, il cite en effet beaucoup Philippe Subra qui parle beaucoup de géopolitique, qui a beaucoup travaillé sur la géopolitique locale, voilà, donc sur l'échelle locale. Mais oui, en effet, concernant le numérique, il y a eu cette pensée que Internet, le numérique, le village global d'Internet était déterritorialisé, qu'en fait, par Internet, par Internet, c'est un grand mot, hein, mais par Internet, en fait, on cassait les frontières et donc on n'avait plus en fait, la notion de territoire et d'État dans leur définition, disons, traditionnelle. En réalité, il n'y a rien de plus territorial que le numérique. D'abord par son infrastructure, parce que oui, pour pouvoir avoir du réseau, pour pouvoir avoir une connexion à Internet, justement, il faut installer un ensemble d'infrastructures câblées qui sont profondément ancrées sur les territoires. Il faut avoir des infrastructures, évidemment, mobiles pour les usages téléphoniques, mais il faut aussi avoir des centres de données sur le territoire, où ça peut être, en tout cas, connecté au territoire. Donc oui, tout est très territorial en fait dans ces logiques-là. D'autant plus qu'on peut rajouter à cela, et ça c'est plus la vision de Raffestin en géopolitique, l'approche territoriale et sociale, c'est-à-dire que un territoire c'est aussi des sociétés humaines qui s'organisent sur ce territoire. Et donc en fait, la notion de territoire implique aussi les personnes, les utilisateurs en fait d'interfaces numériques, les utilisateurs de produits numériques et l'impact en fait du numérique du coup sur cette population. Donc en fait, c'est profondément territorial la géopolitique du numérique. Et ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui justement les outils numériques sont utilisés pour créer une forme d'emprise, en fait, sur des territoires, sur des marchés d'abord, mais ensuite sur des territoires. Et cela va autant de l'usage de l'outil numérique, on pourrait parler évidemment du sujet le plus connu qui est les réseaux sociaux. Voilà. Le média social, en effet, est une forme, peut créer de l'emprise sur un territoire et sur une population donnée, par les idées qu'elle transmet, par les savoirs qu'elle transmet. Et de l'autre côté, le numérique, c'est aussi des infrastructures qui vont avoir un véritable impact sur les territoires. Pourquoi? Parce que ces infrastructures transforment en fait le territoire physiquement, que ce soit de la pose d'un câble ou d'un data center qui derrière va aller taper, va aller se nourrir en fait des ressources énergétiques ou des ressources en eau du territoire, ben ça a un impact en effet sur les aspects en fait sur ces aspects-là importants de gestion des ressources du territoire, par exemple.
Tu disais donc en introduction que tu avais publié un livre, Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. Dedans, tu y abordes la notion de chaîne de dépendance et d'instrumentalisation, voire de militarisation de ces interdépendances. Est-ce que tu pourrais expliciter ces concepts et ce que ça recouvre spécifiquement dans le cadre de l'intelligence artificielle?
La chaîne de dépendance, c'est une notion qui s'est imposée à moi il y a quelques années, en fait, pour répondre à une autre notion qui est celle de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est un concept en fait créé par Michael Porter dans les années 70, si je ne me trompe pas, en théorie des affaires. Donc c'est un concept en fait économique qui est utilisé plutôt pour en fait pour la stratégie d'entreprise, c'est-à-dire dans une logique de concurrence en fait, hein, donner des outils en fait aux entreprises pour gagner des parts de marché, etc. Sauf qu'aujourd'hui, à mon sens, elle ne répond pas à la problématique d'analyse en fait des rapports de force des différents acteurs, des acteurs privés en ce qui concerne le numérique. Et parler de chaîne de dépendance me paraissait plus clair, plus logique en fait concernant en fait le numérique où il y a beaucoup de nœuds en fait de dépendance qui crée des relations d'emprise en fait entre les différents acteurs. Par exemple, une entreprise qui est un hyperscaler, ce qu'on appelle les hyperscalers, on va avoir Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, c'est-à-dire Amazon Web Services, qui propose des services de cloud. En fait, en proposant des services de cloud, évidemment, ils ne proposent pas que des espaces d'hébergement, ils proposent des bibliothèques de services numériques. Et ils proposent des bibliothèques de services numériques qui centralisent en fait la captation de données et qui centralisent aussi des fonctionnalités souvent clés de l'écosystème numérique. Et donc sans ces acteurs-là, en fait, beaucoup de leurs clients, on va dire ça comme ça, leurs sites internet, leurs applications, les outils que vous utilisez au travail, etc., etc., pourraient ne plus fonctionner en fait si une brique importante de l'infrastructure cloud est utilisée. Donc c'est ça, créer des nœuds de dépendance, c'est en fait proposer des services qui derrière, si vous les désactivez, en fait, vont créer de véritables problèmes pour la société dans son ensemble final, puisque nos sociétés modernes sont très utilisatrices de numérique, que ce soit au travail, que ce soit par les services de l'État, que ce soit les banques, que ce soit dans l'éducation, dans la sécurité, la santé. Eh bien voilà, si vous prenez en otage en quelque sorte ces briques techniques, vous obtenez en effet un chaînon de dépendance important, vous devenez un acteur de la chaîne de dépendance très important qui a un pouvoir sur les autres en fait. Et c'est ces rapports de force qui me semblent importants d'analyser en géopolitique du numérique. Et du coup, dans un contexte de mondialisation, il y a un autre concept qui pour le coup a été créé par Farrell et Newman, qui est la militarisation des interdépendances. La militarisation des interdépendances, c'est cette idée qu'on va militariser, donc ça c'est plutôt dans un contexte vraiment de guerre entre les États au départ. Leur concept, ils ne l'ont pas appliqué aux acteurs privés. Au départ, ils ne parlent que des États en relations internationales et ils considèrent qu'en fait, les relations de dépendance entre les États et d'interdépendance entre les États fait que parfois, ils vont utiliser en fait ces argumentaires. Mettons qu'un État, les États-Unis par exemple, fournissent du gaz à l'Europe, du gaz de schiste, et bien du coup, ils ont un argument de poids qui est la fourniture en gaz de schiste pour imposer certaines règles de loi ou certains choix géopolitiques à l'Europe. Pareil pour la Chine, quand la Chine a sur son territoire certaines usines importantes ou alors certaines entreprises fournisseurs, donc les grandes entreprises minières chinoises qui ne sont pas forcément en Chine, mais qui vont exploiter des terres africaines, etc. par exemple, mais ce sont des entreprises chinoises, ben là encore, pour la Chine, ça constitue des leviers en fait, d'influence importants. Et dans le numérique, c'est pareil. Les acteurs qui centralisent en fait les infrastructures et les logiciels sont également des acteurs qui ont des rapports, enfin, qui peuvent créer un rapport de force. Et donc, plutôt que militarisation des interdépendances, en géopolitique du numérique, on peut réellement parler d'instrumentalisation des interdépendances, puisque en centralisant en fait l'activité numérique et les infrastructures, clairement, ces acteurs en fait ont du pouvoir sur l'ensemble de l'écosystème. Et même, je dirais, et cela facilite grandement d'ailleurs le travail de leur lobby. Il n'y a rien de plus facile que d'être lobbyiste chez Google, Microsoft ou AWS, par exemple, ou chez Oracle, hein, dont on parle moins, mais qui est aussi une big tech. Et il n'y a rien de plus facile que d'être lobbyiste chez eux parce qu'en fait, ils ont déjà tous les arguments qui est en premier lieu le rapport justement de dépendance qu'ils peuvent imposer au reste de l'écosystème. Et ensuite, donc concernant l'IA, si on rajoute la couche de l'IA, parce qu'il faut voir la couche, faut voir l'intelligence artificielle comme une couche complémentaire à tout cela. Sans infrastructure, sans traitement de données dans des infrastructures de cloud, etc., on n'aurait pas eu d'IA. L'IA arrive à la fin d'un long recueil de données, d'entraînement de ces données, souvent par des humains, hein, c'est pas uniquement du code, évidemment, il y a beaucoup, énormément de travail humain dans l'entraînement, dans ce qui a permis en fait, d'entraîner les IA, parce qu'il y a tout un traitement de la donnée au départ qui est une donnée brute, qu'il a fallu qualifier, donc il y a beaucoup d'humains là-dedans. C'est un long processus, et l'IA arrive en bout de chaîne en fait, comme une couche supplémentaire, en fait. Et cette couche supplémentaire, qui est donc bâtie sur un ensemble d'infrastructures physiques et logicielles préexistantes, eh bien, forcément, elle est le produit, en fait, des chaînes de dépendance. Elle est le produit de toutes ces dépendances originelles, j'ai envie de dire, qui donnent, au final, des modèles d'intelligence artificielle. Donc, voilà, l'IA, forcément, elle est concernée par ce rapport de force sur les dépendances, mais je dirais même quelque part qu'elle en est le résultat, puisque sans ces rapports de force existants, sans cette monopolisation, cette centralisation des données par les acteurs, par les géants du numérique, on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui en termes de modèles d'IA privés, hein. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir d'autres modèles d'IA qui auraient pu être publiés ou en tout cas open, totalement libres, en fait, hein. Open source, voire libres, justement. Mais ce n'est pas le cas des modèles privatisés. Les modèles privatisés existent parce que derrière, on a des monopoles qui ont clairement centralisé la donnée et son traitement.
J'aimerais bien qu'on s'arrête un moment sur cette notion de chaîne de dépendance, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une façon d'envisager les choses qui est hyper puissante. Si on essaie de rentrer un peu plus dans le détail de cette chaîne de dépendance de l'IA, où tu disais que c'était une couche qui arrivait sur les chaînes de dépendance numérique, tu as commencé à en parler au début, tu parlais des câbles, des stations d'entrée, il y a les bases de données, tu as parlé de maillons aussi. Est-ce que tu pourrais, si on prend un exemple qui pourrait parler à tout le monde, par exemple, je fais une requête sur ChatGPT pour lui demander, je ne sais pas, de me sortir la recette de la tarte à la fraise, par exemple. Qu'est-ce que ça va mobiliser, en fait, comme nœud, comme maillon? Et quels sont les acteurs qui sont clés dans ces maillons et puis les enjeux qui sont présents? Je pense, tu vois, aux terres rares, je pense aux câbles sous-marins, aux data centers, aux clouds, aux logiciels. Enfin, voilà, j'aimerais bien que tu puisses rentrer un peu plus dans le détail de ces chaînes de dépendance.
Oui, bien sûr. Alors, si on le fait à la Guillaume Pitron, on va d'abord parler du processus, avant même la chaîne. Et en termes de processus, ben, quand vous êtes sur un écran et que vous envoyez donc votre prompt sur ChatGPT ou autre modèle de Gen AI, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous l'envoyez sur votre interface, sur votre écran, et puis derrière, il va passer par tout le réseau de transport de données, c'est-à-dire les câbles, avant toute chose. éventuellement par des antennes, si vous aviez utilisé, voilà, si ça passe par un réseau mobile plutôt. Voilà, ça va passer par des centres de données, par des routeurs, prenant des chemins assez diversifiés, puisque en fait les routes peuvent être très très différentes hein, quand vous passez par le réseau terrestre. Ensuite, éventuellement, si votre ChatGPT se trouve aux États-Unis, il y a de fortes chances que vos données, du coup, traversent l'océan Atlantique via les câbles sous-marins. Donc, ils vont traverser des milliers et des milliers de kilomètres. Et puis ensuite, repasser sur le réseau terrestre donc américain, cette fois-ci, par le centre de données où se trouvent justement les instances ChatGPT, par des serveurs, par des processeurs ayant des capacités de calcul. Et ensuite, une fois que la requête va être exécutée par le modèle, il va faire en sens inverse le chemin jusqu'à votre écran. Ça, c'est le processus. C'est le processus qui mobilise donc un certain nombre d'éléments logiciels et matériels. Mais, évidemment, si on parle de chaîne de dépendance, ça voudrait dire qu'en fait, il faut reprendre chacun de ces éléments et décortiquer leur processus à eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait à un moment donné, par exemple, pour obtenir un écran, pour obtenir un logiciel, pour obtenir un câble, pour le poser, pour obtenir un centre de données, etc. etc. Et c'est en cela que les chaînes de dépendance sont particulièrement complexes dans leur rapport de force, c'est qu'elles vont mobiliser une très grande diversité d'acteurs. Par exemple, concernant le câble sous-marin, il va falloir en effet concevoir le câble. Le câble va être fait d'un certain nombre de métaux, voilà. Et ces métaux, hein, que ce soit de... Alors, il va y avoir du cuivre, très souvent. Il va y avoir aussi autre chose qui est du silicium dans la fibre optique, de la silice. Donc, il va falloir, en fait, avoir un certain nombre d'acteurs miniers qui vont aller au départ chercher ces métaux, puis ensuite des entreprises qui vont les transformer, puis ensuite ceux qui vont produire le câble. Ensuite, il va falloir, à un moment donné, le poser. Donc, il va falloir des flottes de navires câbliers, qui sont aussi des acteurs importants dans la chaîne. Et ensuite, il va y avoir les fournisseurs de services, un certain nombre d'opérateurs hein, qui se rajoutent par-dessus jusqu'aux fournisseurs de services. Ce qui est important dans la chaîne de dépendance, c'est de voir qui sont les acteurs qui ont le pouvoir, en fait. Si tout le monde a un pouvoir équivalent, tout va bien. Le rapport de force est équivalent, le rapport de négociation est le même. Mais dans certains cas, ça va pas forcément être le cas dans tous les domaines. Le câble sous-marin, le propriétaire par exemple du câble a déjà un pouvoir qui est celui en fait de voir éventuellement d'accepter en fait les entrées et les sorties de son câble. Voilà. Le navire câblier a le pouvoir d'accepter ou de ne pas accepter de venir en maintenance lorsqu'un câble a un problème. Est-ce qu'il va venir le réparer ou pas? Bon, éventuellement, il n'a pas tellement le choix s'il veut rester un acteur du marché. Voilà. Donc, c'est beaucoup. On se rend compte qu'en fait, les rapports de force sont différents selon ce dont on parle. Si on parle du logiciel, c'est une autre chaîne de dépendance, par exemple. Et le logiciel, par exemple, ce qui est important pour un fournisseur de logiciel, ça va être de créer des chaînes, des briques dont les autres acteurs ne vont plus pouvoir se passer. Voilà. Et donc, par exemple, il y a des éléments très importants, en fait, hein, dans les architectures de cloud, par exemple, qui vont permettre d'apporter de la capacité de calcul à des développeurs qui développent des applications. Eh bien, ces briques-là, par exemple, peuvent être importantes. Donc, à chaque fois, en fait, quand on parle de chaîne de dépendance, il va falloir décortiquer chaque étape, en fait, du processus pour comprendre quel est l'acteur qui, dans ce processus, a le plus de pouvoir de négociation et est en mesure, en fait, de constituer un levier, en fait.
Pour poursuivre sur ce sujet de la question des rapports de force, des affrontements, à côté de ces chaînes de dépendance très, très concrètes, il y a aussi... une bataille de modèles culturels avec des visions du monde, de la technologie différentes, voire qui s'affrontent. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on en est de cette bataille au niveau des États et quelle peut être la place de la France ou de l'Europe dans ces jeux de pouvoir ?
Je pense qu'avant de parler de la France et de l'Europe, on est obligé quand même d'évoquer deux visions qui peuvent être très différentes de l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle par les leaders quand même, hein, que ce soit les États-Unis ou la Chine. Il y a aussi des ressemblances entre les deux, hein, clairement. La ressemblance, c'est celle de la surveillance. Ça se fait de manière différente, mais l'emploi des technologies d'intelligence artificielle dans un cadre de surveillance, hein, que ce soit sécurité ou militaire, c'est quelque chose d'assez commun. En revanche, il y a quand même des différences. Par exemple, en Chine, c'est sûr que la Chine a quand même de l'avance dans tout ce qui va être gestion de masse, pour la simple et bonne raison que eux, plus que les autres, en fait, quelque sorte, ont cette problématique de la massification. Ils ont une très grande population, ils ont plus d'un milliard d'internautes, donc on se rend compte que ce n'est pas du tout le même nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir aux États-Unis ou en Europe, hein. Je veux dire, ils ont plus d'utilisateurs d'outils numériques que les États-Unis et l'Europe réunies. Donc voilà, c'est quand même autre chose. Et par ailleurs, il y a déjà une forte concentration des usages en Chine auprès d'acteurs chinois. Donc ils ont quand même une maîtrise assez énorme de leur écosystème avec une législation qui, elle aussi, est faite de contrôle et de maîtrise des données. Donc disons qu'on pourrait se dire que là-dessus, ils ont une certaine avance sur la vision plutôt de gestion de masse qui d'ailleurs a favorisé l'emploi des technologies de vidéosurveillance et aussi la centralisation de données dans des applications, dans des super apps en fait, qui par ailleurs communiquent, hein, parfois avec l'administration et l'État concernant certaines données. Donc là, on a en fait un modèle, si vous voulez, qui est lié à la captation de données, à la considération en fait à la considération d'une société en fait, de l'usage des données dans le contrôle et la surveillance d'une société en Chine. Mais aux États-Unis, il y avait aussi de toute façon cette vision-là de captation de données, sauf que ça s'est fait sous couvert de rentabilité, de marché en fait, hein, pour le coup, donc une vision acapitaliste, hein, même si la vision chinoise est très capitaliste aussi, hein, mais disons que aux États-Unis, on va avoir vraiment une centralisation des données autour, au cœur, enfin au centre, concentré donc chez les acteurs privés qui par ailleurs sont extrêmement puissants et que l'État d'origine, les États-Unis, ont eux-mêmes du mal en fait à gérer maintenant, hein, contrairement à la Chine, qui garde le contrôle sur ces acteurs privés. La différence, ça va être du coup que les États-Unis vont se concentrer sur des modèles qui peuvent vendre assez rapidement à des entreprises, voilà, pour massifier, hein, un peu à la Amazon Web Services, essayer de proposer en quelque sorte des bibliothèques de services, et alors qu'en Chine, on a plutôt des usages à la base qui sont de la gestion urbaine, la vidéosurveillance, la gestion urbaine, la gestion en fait de contrôle en fait d'une certaine manière, contrôle social. Donc on a deux visions assez différentes en fait de l'emploi des données. Donc c'est peut-être là où on voit en termes de base, en termes de modèle culturel et technologique, des différences dans la gestion, dans le recueil des données et dans leur utilisation, je dirais, immédiate. Voilà. Ensuite, en termes de modèle culturel, si on parle de l'IA génératif, par exemple, il est évident que selon en fait, l'endroit où on se trouve et surtout selon les données, les datasets qu'on utilise, on ne va pas avoir derrière les mêmes générations de contenu, par exemple, si on parle de cela. Le modèle d'intelligence artificielle va s'entraîner à partir de données qu'on lui fournit. Donc, si par exemple, vous lui fournissez des jeux de données qui vont être soit sexiste, hein, soit raciste, par exemple, il est en effet fort probable, par exemple, que votre IA génératif soit raciste et sexiste. Voilà, il va se faire le reflet de votre jeu de données. Donc là-dessus peut en effet se faire des modèles culturels différents qui ne vont pas forcément être uniquement liés aux États, hein, mais plutôt à des groupes culturels qui vont entraîner d'une manière ou d'une autre un modèle d'intelligence artificielle à partir de jeux de données choisis, qualifiés. Et c'est pour ça qu'une intelligence artificielle, d'ailleurs, n'est pas intelligente. C'est pour ça d'ailleurs qu'une intelligence artificielle n'est pas humaine, on va dire les choses comme ça, n'est pas consciente, ne peut pas se poser vraiment des questions, on va dire, puisqu'en fait, elle va simplement faire, en quelque sorte, une analyse statistique poussée, certes, mais qui reste une analyse liée à un jeu de données qui lui a été fourni. Il lui sera quand même difficile, même si on lui donne les clés pour créer du contenu, ce contenu sera jamais complètement original pour autant et aura beaucoup de mal à sortir des biais, j'ai envie de dire, qui lui sont fournis au départ. Après, on pourra tout à fait débattre hein, sur le fait qu'un être humain, évidemment, aussi un peu est dans certains biais, hein, évidemment, mais on ne parle pas de ça à ce moment-là. Et ensuite, hein, quelle place pour la France et l'Europe de ces jeux de pouvoir? Ben, on est plutôt mal placé parce que justement, nous sommes à la base très dépendants des technologies socles qui permettent d'entraîner de recueillir les données, d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle, de les concevoir. Donc, en étant dépendant des socles technologiques, bah derrière, du coup, on ne peut plus faire que des surcouches. Donc, la France et l'Europe, du coup, peuvent tout à fait créer des modèles d'intelligence artificielle, hein, mais ils seront très souvent, en fait, subordonnés, j'ai envie de dire, à des infrastructures qui ne leur appartiennent pas. Voilà, parce que le recueil de données va se faire auprès des instances qui centralisent cela. L'entraînement des données va souvent se faire sur des plateformes qui centralisent également cet entraînement, hein, que ce soit du Amazon Mechanical Turk ou alors d'autres entreprises spécialisées justement dans la qualification de données et d'entraînement de modèles. Voilà, donc c'est le problème de ne pas avoir les socles technologiques, c'est d'ensuite dépendre, de n'être qu'en bout de chaîne et de dépendre de cette chaîne de dépendance. Et c'est là où le fait de se concentrer aujourd'hui, par exemple, si on se concentrait uniquement sur la génération, sur ces technologies d'intelligence artificielle, ce serait une erreur pour la France et l'Europe, puisqu'en fait, ça ne fait que créer une emprise complémentaire de nouvelles entreprises qui vont créer leur IA, voilà, mais qui en fait seront dépendantes d'infrastructures SOC qui ne leur appartiennent pas. Voilà. Donc ça, c'est un problème parce que ça crée des dépendances complémentaires. Pour que ça se passe bien, il faut qu'en fait, à côté de cela, à côté du développement d'entreprises et de modèles d'intelligence artificielle, qui par ailleurs feraient mieux d'être ouverts, comme ça au moins on donne la possibilité à tous les pays en réalité d'avancer sur ces sujets-là, et on rend en quelque sorte totalement abscons, en fait, on rend inutiles les modèles privés. De modèles d'intelligence artificielle. L'important, en fait, c'est d'enlever les armes, d'enlever ces armes-là d'entreprises privées, en réalité. Donc, ce qui serait pas mal, ce serait de faire des modèles ouverts, mais des modèles ouverts, du coup, qui seraient aussi sur des socles technologiques dont on aurait la maîtrise, que ce soit en termes d'infrastructure logicielle, que ce soit en termes de recueil de données, mais que ce soit aussi en termes de calcul, de capacité de calcul. Pour cela, évidemment, on parle de processeurs, on parle de puces. On a en Europe les capacités de créer des puces, de créer des puces importantes, des puces performantes, mais évidemment, on n'est pas les meilleurs là-dedans. Au-dessus des puces, il y a aussi évidemment souvent des logiciels installés par-dessus. Enfin bref, tout cela en fait doit être décortiqué et doit être analysé afin d'en tirer les meilleurs, en tout cas d'en tirer des leviers en fait importants de pouvoir. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on fait pour le moment. Généralement, on s'applique plutôt à financer en quelque sorte des innovations, mais des innovations qui sont elles-mêmes dépendantes de socles technologiques dont on n'a pas la maîtrise.
Dans ton livre, tu t'évoques une forme d'influence spécifique. Tu parles de passeurs de technologies. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi en fait ce sont des acteurs importants dans la mise en dépendance des États vis-à-vis des big tech, donc ces grosses entreprises américaines, chinoises, qui se comportent comme des acteurs impérialistes. Et j'ai en tête notamment l'exemple de Simplon qui fait des formations avec Microsoft autour de l'intelligence artificielle, mais pas que.
Alors, en effet, il y a plusieurs types de passeurs de technologie. Le passeur de technologie, c'est en quelque sorte l'agent du dernier kilomètre de la transformation numérique, c'est-à-dire cette personne ou ces personnes qui vont transmettre, intégrer la technologie dans des organisations parce qu'eux-mêmes y trouvent un avantage, évidemment. Alors, dans ces passeurs de technologie, on a d'abord ceux dont la position professionnelle, dont le métier, en fait, dépend de la technologie privée. Et là-dessus, dans le numérique, il y a tout un tas de métiers comme ça, comme par exemple les personnes qui font du référencement naturel, les personnes qui sont spécialisées aussi dans certaines technologies de développement, comme les développeurs Azure, les développeurs AWS, par exemple, qui sont en fait des développeurs spécialisés sur une technologie privée. Sans Google Analytics, il n'y aurait clairement pas eu de métier de référencement naturel. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu autre chose. Mais tous les référenceurs, toutes ces personnes qui travaillent là-dessus, n'auraient pas pu en faire un métier à part entière, d'ailleurs. Donc, en fait, ces personnes-là, par exemple, sont autoportent, j'ai envie de dire, la technologie, parce qu'en fait, leur place sur le marché, donc leur place dans la société, leur place sur le marché, en fait, dépend de technologies privées. Donc, ce sont les meilleurs passeurs de technologies qui vont, du coup, transmettre au sein des entreprises des dépendances, en fait, hein, installer des dépendances d'une entreprise à tel ou tel acteur privé. Évidemment, dans ces passeurs de technologie professionnelle, on pourrait ajouter tous les cabinets de consulting, et c'est un élément important à prendre en compte, puisqu'on sait très bien que les grandes entreprises et l'État ont souvent fait appel aux cabinets de consultants, des grands cabinets de consultants qui ont souvent des partenariats avec les géants du numérique et qui donc sont des très bons ambassadeurs, hein, pour faire passer ces technologies en priorité sans même avoir soit la connaissance d'alternatives technologiques, soit l'envie de proposer des alternatives. Donc, il y a une préférence en fait systématique vers certains acteurs privés qui font de ces agents-là en fait, hein, des passeurs de technologie privilégiés. Ensuite, il va y avoir des passeurs de technologie qui sont intégrés, par exemple, dans les universités, des passeurs de technologie qui vont en fait transmettre, pour des raisons de moyens, en fait, certaines technologies plus que d'autres. On peut penser au partenariat des universités avec Google, par exemple, qui permet, entre guillemets, à des étudiants d'avoir accès à des formations données par Google. À très bas prix, voire gratuitement. Voilà, là encore, hein, ce sont des passeurs de technologie. Donc, il y a un ensemble de métiers, d'actions, en fait, de personnes qui pensent bien faire, d'ailleurs, hein, souvent, parce que ça va coûter moins cher, parce que les entreprises, ces géants du numérique, en fait, ont les capacités d'offrir du gratuit. Donc, ça va coûter moins cher, mais aussi, ils sont convaincus eux-mêmes, en fait, de la pertinence de ces technologies par rapport à toute alternative. Donc, vous n'aurez jamais un passeur de technologie, par exemple, qui va vous faire la promotion d'une alternative technologique, d'un concurrent potentiel au géant du numérique. Voilà. Et donc, ça, c'est un vrai problème parce que ça crée, en fait, dans la société, des mécanismes en fait, d'emprise complémentaire qui sont, en fait, des mécanismes de... Si vous voulez, on peut dire de techno-binding, c'est vraiment la capacité en fait à rendre dépendants les organisations, que ce soit dans l'État, dans les entreprises, dans l'éducation également, donc dans les universités, les écoles, et qui font que plus personne, quasiment plus personne ne connaissent les alternatives et utilisent et concentrent en fait leurs usages autour de quelques acteurs clés, qui sont des acteurs privés.
Si on revient maintenant sur la problématique des dépendances, tu as pas mal travaillé le sujet et tu proposes, toi, une démarche que tu nommes gestion stratégique des dépendances qui doit permettre de tendre vers plus de souveraineté. Cette démarche, elle repose sur 5 piliers. Le premier, c'est comprendre les dépendances liées à la numérisation de la société. Le deuxième, c'est de poser des limites au pouvoir par le droit du numérique. Le troisième, de devenir producteur plutôt que consommateur. Le quatrième, de conserver le contrôle sur les infrastructures critiques. Et le cinquième, de former les utilisateurs à la complexité technique. Si on a en tête cette démarche que tu proposes, est-ce que tu auras un exemple d'utilisation de celle-ci dans le domaine de l'intelligence artificielle en France, en Europe, comme tu veux?
Oui, alors c'est vrai que si on parle de l'évaluation des dépendances, L'IA, c'est un joli terme, c'est surtout un mot voilà, très à la mode, très buzzword, etc. Mais en réalité, il faudrait d'abord s'occuper des socles technologiques si on parle d'évaluation de la dépendance et de gestion de la dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait d'abord revenir sur les sujets du cloud, sur le sujet du recueil des données par des entreprises, par des multinationales, hein, par des entreprises monopolistiques. Il faudra reprendre le sujet, évidemment, des centres de données et de leur territorialisation pour le faire de manière, disons, cohérente avec les ressources du territoire et ne pas le faire aujourd'hui par opportunisme économique. Il y a tout un ensemble, en fait, de choses qu'il faudrait reprendre à la base. Voilà, de même que se poser la question aussi de ce qui permet de faire, d'avoir des capacités de calcul, c'est-à-dire les processeurs, en fait, et les puces derrière. Voilà, donc en fait, il y a un ensemble de questions qu'il faut adresser avant même la couche, en fait, d'intelligence artificielle, la couche logicielle qui vient, en fait, à la fin de cette chaîne-là. Voilà. Ensuite, concernant les autres piliers, hein, que j'avais évoqués, que ce soit sur le droit du numérique ou le fait de maîtriser des infrastructures physiques, là, il s'agit d'une envie, en fait, d'une tentative de maîtriser, disons, plutôt en termes de territoire, avec un regard assez pessimiste, j'avoue, dans mon livre, hein, sur la partie droit du numérique, puisque, à mon sens, hein, bon, je ne suis pas la seule à être très critique là-dessus, les législations en cours, hein, que ce soit le RGPD ou le DSA et le DMA, vont évidemment avoir beaucoup de mal à contraindre, en fait, réellement, l'architecture même de ces technologies-là, alors même que c'est justement l'architecture de ces technologies et le fait que leur modèle est fondé sur le recueil de données et sur le capitalisme de surveillance, qui fait que justement, on se retrouve avec les problèmes aujourd'hui qu'on rencontre. Et par ailleurs, le droit du numérique, concernant par exemple le RGPD, ne se limite qu'aux données personnelles visibles. En fait, il y a tout un pan que le régulateur, une fois qu'une loi est posée, qu'une régulation est posée sur le papier, après le régulateur se trouve en fait quand même devant des boîtes noires. Il n'a pas accès à un ensemble d'informations. Il est comme l'utilisateur uniquement face à une interface. Et donc on a un phénomène, notamment avec le RGPD, qui est une individualisation du droit. D'une certaine manière, on responsabilise du coup l'utilisateur de produits numériques à auto-valider, voilà, à considérer en fait qu'il peut en fait en sécurité utiliser un outil et accepter les conditions générales de vente, etc. Donc, c'est vrai, les conditions générales d'utilisation, c'est vrai qu'il y a un réel problème quand même en ce qui concerne le droit du numérique. Et dans mon livre, même si je dis qu'il faut continuer évidemment à travailler sur ces sujets-là de droit, parce qu'au final, c'est bien sûr ce qui permet aux États et aux sociétés de se faire entendre et d'imposer les choses. Mais malheureusement, concernant le secteur du numérique, le phénomène de boîte noire, qui est aussi dû à la propriété industrielle, hein, qui, voilà, on a d'un côté le droit du numérique, mais on a aussi le droit du secret, j'ai envie de dire, pour les entreprises en termes industriels et intellectuels, eh bien cela, en fait, pose réellement problème pour savoir comment sont conçus ces outils et ce qu'ils font réellement, où passent les flux de données, etc. Et ensuite, il est évidemment très important aujourd'hui de permettre à l'utilisateur de prendre conscience d'un certain nombre de mécanismes, hein, de ces technologies-là, en commençant à l'école, bien sûr. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait, on n'intègre pas, par exemple, dans des cours de géographie ou d'histoire, tout simplement le sujet des infrastructures qui existaient déjà en fait au 19e siècle, qui sont celles par exemple des câbles. On pourrait tout à fait parler des câbles télégraphiques utilisés par l'Empire britannique par exemple au 19e siècle. Et je pense que ce serait justement un très très bon sujet pour mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, des élèves sur ces sujets en fait de connexion intercontinentales, enfin transcontinentales, qui datent en fait du 19e siècle et qui ont simplement évolué en termes de technologie et de rapidité. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait intégrer en fait ces connaissances-là, qui sont des connaissances matérielles clés. Et de même pour le logiciel, on peut vraiment aborder en fait la période moderne en expliquant en fait à quel moment justement les machines ont fait les ordinateurs ont fait leur entrée dans les entreprises et à quel moment aussi le logiciel est venu en renfort. Ça aussi, c'est de l'histoire contemporaine aussi. Hein, donc, on peut, dans la géographie et dans l'histoire, intégrer en fait des éléments techniques sans pour autant faire de l'informatique. L'idée n'est pas d'apprendre aux élèves à coder, en fait, à faire du développement informatique, mais à comprendre en fait les mécanismes qui ensuite en fait produisent les outils qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ne voient que sur leur écran, mais avec derrière un ensemble de couches en fait techniques dont ils n'ont pas du tout conscience.
D'abord, la question historique là à l'instant, est-ce que justement, historiquement, enfin, si on regarde en arrière, on peut identifier des facteurs qui ont amené à la dépendance actuelle aux acteurs, notamment américains. Et comment est-ce que ça peut éclairer les choix qu'on peut faire aujourd'hui et demain en lien avec le numérique?
Il y a beaucoup de facteurs qui ont amené une dépendance actuelle alors, aux acteurs américains. Ça aurait pu être un autre empire à un moment donné, hein, mais il y a une mise en dépendance qui s'est faite après-guerre. Donc des pays européens vis-à-vis des financements des États-Unis pour la reconstruction de l'Europe. Ça a aussi favorisé évidemment l'implantation des entreprises américaines et notamment d'entreprises en fait qui vendaient à ce moment-là des machines à écrire électriques, du matériel en fait pour faire fonctionner en fait à la fois les usines mais aussi les bureaux. Et donc ça a créé en fait une première dépendance technologique qui a permis à des acteurs par exemple comme IBM de se développer beaucoup après-guerre en Europe. Et cela s'est fait aussi en même temps qu'évoluait en fait une pensée libérale puis ensuite néolibérale qui est un affaiblissement, en fait, un retrait de l'État, une forme de frugalité de gouvernement face à la montée en puissance des acteurs privés et de ces nouvelles instances, de ces nouvelles entités qui apparaissaient, qui étaient les multinationales, donc avec une vision mondiale de l'économie. Et donc, en fait, ces facteurs-là, à la fois de mondialisation, qui ont permis aux entreprises, en quelque sorte, de se libérer des frontières uniques de leur État d'origine, donc ça a permis donc du coup la montée en puissance de l'acteur privé, cette mondialisation. Et à côté de ça, le néolibéralisme et le capitalisme à outrance, qui du coup fait que dans cette logique-là, les États en fait ont été un peu des États autophages, enfin même complètement, hein, c'est-à-dire des États qui se sont volontairement affaiblis, qui se sont volontairement privés de leviers de pouvoir contre les entités monopolistiques type multinationale puissante, justement, et qui fait que, bah, du coup, on se retrouve dans une configuration, dans la configuration actuelle, qui est à la fois une dépendance vis-à-vis de l'Empire américain avec ses puissantes multinationales, mais aussi, en fait, la montée en puissance, historiquement, en fait, hein, de l'acteur privé sur l'ensemble, en fait, hein, à la fois du marché, mais aussi du contexte parfois géopolitique, où des entreprises sont en mesure, en fait, de négocier parfois à la même hauteur que certains États. Voilà. Comment ça peut éclairer nos choix actuels et futurs? Je dirais que ça peut éclairer nos choix dans le sens où il faut remettre en question plusieurs choses. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, la croissance perpétuelle telle qu'on la voit ne fonctionnera pas ad vitam aeternam, si on veut maintenir une société, disons, plus ou moins égalitaire, ce qui est déjà extrêmement restreint dans le monde dans lequel nous vivons, restreint à certains États. Hein. On a beaucoup de chance d'être en Europe, hein, mais en fait, je veux dire, en mondialisant d'une certaine manière nos économies, en fait, on n'a fait que déplacer le problème. Par exemple, le travail des enfants en Europe, certes, a été résolu, mais en fait, on l'a déplacé ailleurs. Hein. Il y a des enfants qui travaillent pour nous ailleurs dans le monde, par exemple. On a déplacé à la fois cette exploitation-là, on a déplacé une forme d'esclavage, on a déplacé aussi une création dans l'exploitation des ressources, ce qu'elle provoque sur les territoires, la pollution, etc. Donc, en fait, nos choix actuels, nos choix futurs, j'ai envie de dire actuels et futurs, doivent prendre en considération, d'une part, la responsabilité que nous portons vis-à-vis, en fait, justement, de ce qu'a entraîné la mondialisation, surtout ailleurs, en fait, hein, mais aussi doit prendre en considération les rapports de force qui se sont installés, qui sont des rapports de force très déséquilibrés entre, justement, bah, des acteurs qui sont des empires, que ce soit les États-Unis d'un côté, la montée en puissance aussi de la Chine, mais les États-Unis restent encore les leaders. Donc là, il faudrait réussir à rétablir cela. Et pour rétablir cela, aujourd'hui, ça va passer justement par la maîtrise de nos dépendances. La raison pour laquelle nous avons des difficultés justement à être souverains, j'ai envie de dire, en termes de choix géopolitiques et de choix politiques, c'est notamment parce que nous sommes extrêmement dépendants de l'Empire américain. Donc il faudrait travailler sur cette dépendance, d'une part. Et ensuite, il y a la question très importante de l'acteur privé et de son monopole, et qui se rejoignent, qui rejoignent cette question de dépendance à l'Empire américain. C'est-à-dire que quand des entreprises monopolistiques ou quasi-monopolistiques, hein, disons-le comme ça, acquièrent un pouvoir tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien voilà, forcément, en fait, ils sont des ambassadeurs aussi de leur pays d'origine. Donc les États-Unis vont pouvoir instrumentaliser cela. Vont pouvoir instrumentaliser le fait que ce sont des acteurs américains qui fournissent des services essentiels à tel ou tel pays. Donc, pour se libérer de cela, il faut aussi affaiblir, en fait, ces entités privées. Il faut les affaiblir en décentralisant, en fait, justement ces nœuds de dépendance. Ne pas tout mettre dans le même panier, c'est la première chose, c'est-à-dire diversifier, c'est la première réponse. Et ensuite aussi, créer et porter des alternatives qui permettent, en fait, justement, d'avoir la maîtrise dans des secteurs clés. Et quand je parle de secteurs clés, je ne parle pas seulement du militaire, je parle aussi de la santé, de l'éducation, de la cartographie, donc du fait d'avoir la possibilité de voir les déplacements, la mobilité, ce genre de choses. Je pense qu'on a vraiment, en quelque sorte, loupé le coche de cela, qui pose un problème sur, je dirais même, la protection de la société, in fine, et sur notre capacité à être souverain politiquement.
On arrive sur la fin de l'épisode. J'ai une dernière question pour toi, un petit peu prospective et qui permettra, je pense, de synthétiser un peu tout ce que tu as pu partager jusqu'à présent. Si tu étais sollicité par la nouvelle ministre de l'intelligence artificielle et du numérique pour lui proposer 3 actions à mettre en place pour réduire nos dépendances dans le domaine de l'IA, tu lui proposerais quoi?
Eh bien, alors, en somme, hein, donc faire cette analyse des dépendances afin de travailler sur des nœuds stratégiques, donc sur des nœuds de dépendance, à la fois pour être plus souverain dans nos choix, et là je ne parle pas de souveraineté numérique, c'est un autre sujet, hein, mais pour être plus souverain dans nos choix politiques et géopolitiques, mais aussi pour être en mesure de créer du rapport de force, parce que oui, on n'est pas dans un monde de bisounours, malheureusement, et parfois, sur le champ des relations internationales, il est intéressant pour un État de faire valoir ses arguments technologiques notamment. Donc, travailler sur des nœuds stratégiques, des nœuds de dépendance et de mise en dépendance est quelque chose de très important. Et c'est parfois très éloigné du domaine de l'IA, d'ailleurs, hein, puisque ces nœuds stratégiques vont souvent concerner les socles technologiques de traitement de données qui peuvent être des socles technologiques, des technologies spécialisées dans certains domaines. Je parlais tout à l'heure des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, ça peut être la sécurité, évidemment. Bien oui, on peut tout à fait se spécialiser dans des technologies d'intelligence artificielle qui seraient vraiment sur des secteurs clés, qui nous permettraient à la fois de protéger un actif sur lequel on peut garder le contrôle et donc protéger en fait nos données et ce qu'on en fait, mais qui peut aussi être une alternative pour le marché, pour les acteurs économiques locaux, j'ai envie de dire, donc les acteurs économiques français, européens, hein, ceux qui sont de ce côté-là, et qui du coup, ça fait une réponse, en fait, tout simplement, au monopole établi. Il faut aussi penser à sortir, et ça, c'est plus la logique, je dirais, du droit du numérique, mais aussi tout simplement de l'éthique et de la conception, de la création d'un nouveau numérique, c'est-à-dire de sortir, en fait, de la vision d'un capitalisme de surveillance qui apporterait, du coup, plutôt une plus-value à la société, c'est-à-dire, en fait, penser justement, à la fois, donc on a parlé de stratégie, de levier de pouvoir, ça c'est une chose importante, en gros, pour être en mesure de montrer les muscles, j'ai envie de dire, quand on en a besoin. Mais de l'autre côté, il y a aussi la vision d'une société plus saine, en fait, d'une société qui puisse utiliser sereinement la technologie sans craindre, en fait, justement, les choix de tel ou tel milliardaire ou tel État. Voilà. L'idée, du coup, ce serait de créer un numérique de manière générale, et donc des IA qui soient au mieux justement des modèles ouverts, hein. Là je ne parle pas des datasets, hein, mais des modèles ouverts dans l'usage, disons, des plus grands publics, et aussi en fait sortir de cette idée que tout doit être rentable à tout prix. Il y a des domaines dans lesquels il ne faut pas en fait que la production d'une technologie soit rentable, il ne faut pas que ça rentre sur le marché, il faut qu'en fait ce soit protégé, soutenu, afin pour servir le bien commun. Et en cela, je ferai un parallèle, hein, qui va nous ramener très terre à terre. Hein. Mais oui, développer par exemple des IA au service des organismes de santé. Et concernant la santé, j'ai envie de dire que une des choses sur lesquelles la santé ne doit pas être rentable, c'est justement sur les hôpitaux, mieux payer les infirmiers, mieux payer les médecins des hôpitaux, mieux payer les équipements, enfin fournir des équipements, et mieux penser aussi à la cybersécurité des hôpitaux. On sort du domaine du numérique, mais c'est la même logique, en fait. Il y a des domaines, que ce soit numérique ou non numérique, qui ne doivent pas être rentables, qui ne doivent pas rentrer sur la logique de marché. Parce que sinon, on ne sert plus le bien commun, on ne sert que la boussole économique, on le sait très bien. En fait, c'est extrêmement logique. Hein, voilà. Donc, ça veut dire, en fait, sortir peu à peu de notre modèle de société actuel. Donc, c'est ce que j'essaierai de pousser, en fait, en trois actions, hein, du coup, à la fois très stratégique et très terre-à-terre, mais aussi se projeter dans un modèle plus sain, en fait, d'utilisation de ces technologies-là pour protéger la société.
Merci beaucoup, Ophélie, et merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions, et puis j'espère à bientôt, alors.
Merci.
L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.